Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
C'est rien d'intéressant à dire ce moment.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On fascise la gangrène, on est fini pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle.
Hola, bonsoir à tous et à toutes. Vous nous rejoignez peut-être à l'instant pour un Canu Info du jeudi 18 octobre 2018, mais peut-être que vous étiez déjà avec nous, avec les paysans dans la lutte de classe. Et vous serez peut-être encore sur Radio Canu pour l'émission La Petite Cuillère qui prendra la suite à partir de 20h. Et ce soir, donc, je suis accompagnée avec le traditionnel Laurent.
Bonsoir Delphine.
Bonsoir. Alors nous aurons une rubrique que, au départ, Laurent a appelée Police Justice. Et que nous allons évidemment renommer pour le blog, puisqu'on vous rappelle que cette émission sera réécoutable sur le blog du Canu Info du jeudi, qui a son petit blog bien séparé. Oui, parce qu'on aime l'autonomie jusqu'au bout, si vous voulez. Donc, ça nous permettra, ce Polyjustice, de reparler de Monsieur Mélenchon, de procès radioactif et d'Arabie Saoudite. Nous aurons une grosse rubrique énergie et environnement et nous reparlerons, comme notre camarade précédemment, de la 45, par exemple. Mais nous parlerons de Madame Emmanuelle Wargon aussi, par exemple. Ensuite, nous aurons un petit tunnel sur les profiteurs. On parlera de Monoprix et du travail de nuit et des emplettes de nuit. Nous retournerons du côté des grévistes du parc Hayat Vendôme à Paris, donc les palaces et les grèves. Nous reparlerons de ma marotte Ryanair, parce que ça continue la galère. Et puis nous finirons très certainement avec des irrationnels de tous bords, ça sera avec Laurent. Et tout de suite, on va donc attaquer avec cette actualité de Monsieur Mélenchon.
Oui, ou des choses qui tournent autour de Mélenchon, notamment sur les idées complotistes qui peuvent tourner autour de cet homme politique. Puisque vous avez tous et toutes entrevu la perquisition ô combien médiatisée par Monsieur Mélenchon de la France Insoumise, où il a rappelé que sa personne était sacrée. Donc vous avez quelqu'un qui est sacré, donc non seulement il y a le côté religieux, mais il y a le côté je suis au-dessus des autres, qui est assez cohérent avec Mélenchon, on le connaît depuis plus de 25 ans dans la vie politique, Monsieur Mélenchon, on sait très bien ce qu'il est et ce qu'il vaut. Bon bref, une perquisition dans la France Insoumise, avec des billets, des tweets qui ont commencé à apparaître, très exactement, avec des titres du genre « Qui est donc ce policier ?» Et c'est ce titre de billet qui est paru hier matin, 17 octobre, qui a été rédigé par Pierrick Tillet dans les Chroniques du Yeti. Alors lui, il faisait un rapprochement qui est complètement douteux, bien évidemment, entre les visages de deux hommes distincts, un homme présent lors de la perquisition, un barbu, et une photo montrant un autre barbu proche d'Emmanuel Macron et qui fait partie de son service de sécurité. Et comme c'est bien connu, en fait, il n'y a qu'un seul barbu en France, il en a déduit, cet imbécile de blogueur, sympathisant de la France insoumise, rappelons-le, que c'était la même personne, puisqu'il n'y a qu'un barbu en France. Et il a donc déduit, il a écrit ce post, perquisition France Insoumise, deux points, qui est donc ce policier, sous-titré avec le commentaire, comme diraient les chiens de garde médiatiques du système, on n'affirme rien, on pose des questions, laissant entendre que ce flic était bien, pas un flic, mais quelqu'un proche de Mélenchon, et que c'est une perquisition, non pas judiciaire, mais politique. Trois quarts d'heure plus tard, Thomas Porte, porte-parole du Parti communiste du Tarn-et-Garonne, lui aussi, il voit ce tweet, il dit « Oh putain, c'est génial !» Il le repropose un peu partout, et avec le commentaire suivant, « Donc le policier présent hier pour la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon était dans la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Cela interroge. Merci à Yeti Blog pour cette trouvaille. » Alors lui, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de second degré, il n'y a plus rien, c'est direct, c'est la même personne. Bien évidemment, tout le monde sait que c'était deux personnes différentes. D'abord, ils ne se ressemblent pas tant que ça. Alors si, ils ont un point commun, ils sont bruns, ils ont la barbe. Mais ça fait quand même beaucoup de personnes en France, à mon avis, qui ont cette caractéristique physique-là. Ce qui est donc totalement ridicule de la part de ces deux complotistes, un proche de Jean-Luc Mélenchon et l'autre membre du Parti communiste. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de lien possible. Ça a été démontré moult fois. Alors, ils assument vraiment pas, hein, puisque Patrick Tillet, hier soir vers 18h, a supprimé de son blog l'article mensonger. Et il a supprimé aussi le tweet qui renvoyait à cet article. Thomas Porte a fait la même chose, sans commentaire. Il a enlevé son tweet du matin. Donc voilà, l'info, l'intox, on va appeler ça, poursuit son chemin, puisqu'elle est encore diffusée, propagée par tous ces complotismes qui se classent à gauche, paraît-il, puisque depuis, il y a une espèce d'idée qu'il faut rechercher si dans cette vidéo de la perquisition, il n'y aurait pas des gens qui seraient proches d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on y va, on cherche, et finalement on ne trouve rien. Et c'est juste ridicule. Et on se rend compte finalement, d'ailleurs on s'est rendu compte lors de cette perquisition, que Jean-Luc Mélenchon utilisait de plus en plus les méthodes que Jean-Marie Le Pen ou
sa fille
Madame Le Pen utilisent depuis des années, c'est-à-dire non seulement le complotisme, avec ces théories, ces fake news, ces théories complètement fausses, mais aussi son mépris des médias. Alors mépris de la justice aussi d'ailleurs, et mépris des médias. Et le mépris des médias a été accentué encore hier après-midi, puisque monsieur Jean-Luc Mélenchon s'est illustré dans la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale, salle où il y a les médias, lorsqu'une journaliste de France 3, originaire du Sud-Ouest, lui a posé une question. Et comme il a jugé cette question embarrassante, au lieu de lui répondre, il l'a insulté, on va dire, ou méprisé, ou rabaissé, ou tout ce que vous voulez, puisqu'il a fait comprendre qu'avec son accent, il ne la comprenait pas. Alors je cite la phrase, il y en a plein des phrases, j'en cite juste la fin. « Non madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous dites n'importe quoi, quelqu'un a-t-il une question à formuler en français ?» Et un peu plus et à peu près compréhensible, laissant entendre effectivement que cette personne qui parlait couramment français, mais avec un accent du Sud-Ouest, ne méritait pas de s'adresser à lui, à sa sainteté, Jean-Luc Mélenchon, qui comprend le vrai français. Alors c'est marrant, parce que cet imbécile... alors, je ne sais pas si c'est du sexiste ou si c'est juste du mépris du métier de journaliste, et à mon avis c'est un peu des deux.
Parce que moi c'est ce que j'allais dire, ça fait plusieurs fois qu'ils s'en prennent à des journalistes, femmes, quand même, il faut le dire. On avait soulevé le problème il n'y a pas très longtemps, quand Fabien avait fait l'émission avec moi, de l'attaque d'une journaliste femme, et là il recommence, et ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent aux femmes. Je ne sais pas s'il se sent surpuissant, et qu'il pense qu'il peut écraser les nanas.
Il se sent surpuissant, parce que comme il l'a dit, sa personne est sacrée.
c'est vrai. Hein. C'est vrai.
Il n'a pas bien étudié la Constitution française. Hein, tous les citoyens naissent égaux en droit, libres et en droit, machin, tout ça. Donc, non, pas du tout. Il est au-dessus de tout ça, M. Mélenchon. Bon. On va pas tartiner là-dessus longtemps. Ça fait longtemps que c'est quelqu'un de méprisable. Hein. Déjà, quand il était au PS, il l'était. Donc après, je vous parle même pas de tout ce qu'il a pu faire en instrumentalisant tout et n'importe quoi.
En tout cas, moi, si j'ai bien compris, dans son programme politique, bientôt, il y aura le fait qu'il n'y ait plus du tout de perquisition.
Ça serait une bonne nouvelle pour...
Alors c'est pas toujours agréable, hein, les perquisitions, je ne les aime jamais. Mais il a fait, justement, il dit que c'est par rapport à... C'est comme s'il avait vendu de la drogue. Donc c'est-à-dire qu'il met une différence déjà dans l'application de la justice en France.
Oui, ça veut dire que les gens qui vendent de la drogue ont le droit de subir les pressions policières, les humiliations, tout ça, mais pas lui.
Mais pas les gens qui détournent de l'argent.
Voilà, puisqu'il est quand même accusé d'avoir détourné de l'argent, des zones d'emploi fictifs. On verra ce que donnera le procès. Comme on dit, il est présumé innocent, mais enfin bon, faut pas non plus nous la faire à l'envers. On va parler de Bure maintenant, parce que alors, dans la justice, des fois, ça fait un peu n'importe quoi. C'était mardi dernier, on était 16 octobre. C'est Gaspard Dalens qui a été jugé à Bar-le-Duc. Et il a pas été convoqué à son procès. Donc c'est son propre procès. On a un peu de voir la Corée du Nord. On imagine en Corée du Nord le mec. En Corée du Nord, il aurait été déjà tué.
Voilà, on vient le chercher chez toi, on te traîne par les cheveux et voilà. On t'emmène au camp. Là, c'est un petit peu différent.
Mais bon, c'est pas loin quand même, puisque donc il est écrivain, journaliste et surtout militant anti-nucléaire, et notamment il s'est illustré à Bure, puisque c'est dans ce cadre-là qu'il était jugé. Il a écrit plusieurs livres, notamment celui qui est au seuil qui s'appelle La bataille du nucléaire, enfin CGO, qui s'appelle CGO, la bataille du nucléaire. Donc voilà, il n'a pas été informé de l'audience et le procès a eu lieu. Il est le procureur de la République, donc le bras armé de l'État, hein, le procureur c'est le bras armé de l'État, a requis 3 mois de prison avec sursis contre lui et une autre personne pour entrave à travaux publics. Le jugement sera rendu le 13 novembre. Drôle de justice quand même quand on voit qu'on peut être jugé sans qu'on soit prévenu.
Oui, alors c'est en fait l'avocat de l'autre personne qui était à ce procès qui l'a prévenu, c'est-à-dire que c'est l'avocat l'autre personne qui était là, qui s'est rendu compte qu'il était cité lui aussi et qu'il était quand même accusé de quelque chose et qu'il a prévenu et qui a demandé un report. Le report a donc été refusé. D'abord plus ou moins accepté, puis si j'ai tout compris, refusé finalement.
Au dernier moment, vraisemblablement, il y a le report, il y a intervention de quelqu'un au placé qui a dit non, on ne reporte pas. Le but, c'est de le juger, c'est tout.
Ou alors, je crois que même des fois, la justice, elle est tellement pourrie parce qu'ils n'ont pas le temps que je crois que même des fois, ils se fichent de repousser les choses parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas dans des procès politiques et qui vivent ça. Donc je pense que même c'est parfois juste parce que la justice, elle en a vraiment rien à faire.
Voilà, on rappelle les faits quand même. En fait, ils sont intervenus le 23 janvier 2017. Ils étaient un certain nombre d'opposants à s'opposer à l'ANDRA, donc l'Agence nationale de déchets radioactifs, qui intervenait dans le bois Le Juc, qui avait été condamné par la justice parce qu'ils avaient occupé, défriché le bois de manière illégale. Alors, on notera qu'ils avaient été condamnés, mais que c'est la structure qui a été condamnée, jamais personne. Alors que là, c'est assez drôle, ils attaquent les personne, la justice. Il y a toujours une justice de classe ou une justice politique, c'est ça. Hein. C'est que d'un côté, il y a des textes de loi. Donc quand les agences nationales officielles là, de l'État font des choses illégales, on leur dit c'est mal, c'est illégal, mais il n'y a pas de prison avec sursis, il n'y a rien. Par contre, de l'autre côté, quand c'est des militants, on attaque les personnes. Hein. Il y a une vraie différence. Alors que le chef de l'ANDRA, le responsable de l'ANDRA qui a pris les décisions, il aurait pu prendre la justice ne l'a pas condamné alors qu'elle aurait pu totalement le condamner. Donc il s'était opposé au retour des véhicules dans la forêt qui devaient remettre en état, mais alors c'était juste rigolo, hein, une remise en état quand on a défriché, qu'on arrive avec des outils, et les opposants sentaient bien que c'était une fausse remise en état, ils avaient bloqué le passage. Ils étaient pleins, il y en avait que deux personnes à visage découvert, le journaliste et une autre personne. Et il n'y a que deux qui sont retrouvés en procès, bien évidemment, ce qui réexplique pourquoi des fois il faut faire des actions en visage caché, hein, contrairement à ce qu'on pourrait entendre des fois temps en temps. Voilà. Non, des fois, il n'y a pas le choix, en fait.
Oui, mais là, c'est toujours le même problème. C'est qu'il y a des gens qui vont dire que si on est tous à visage, tous à visage découvert.
Soit tous, soit personne.
Voilà. C'est toute la difficulté de. Nous n'avons pas la réponse ce soir. Nous, ce serait un débat qui est long et compliqué.
Non, mais s'ils avaient tous été à visage découvert, ils n'auraient pas pu les poursuivre tous. C'est toujours un peu compliqué.
D'ailleurs, ils avaient tous été poursuivis, on aurait rigolé un coup.
C'est déjà arrivé où on avait les faucheurs volontaires qui étaient à
juger, arrêter, c'est une chose. Juger, c'en est une autre. Voilà.
Bon, bref, le procès, on aura la réponse en novembre, savoir ce qui a été fait. Ce qu'on voit bien, c'est que c'est quand même une justice expéditive, une justice d'exception. Statuer sur une affaire sans que la personne soit là, c'est quand même pas très réglo. Après, la France sera donneuse de leçons à l'étranger sur la justice. Ça nous fera bien marrer. Alors, la coordination Stop CGO a réagi. Elle a rappelé que c'était pas la première fois qu'il y a une politique répressive sur cette lutte, la lutte anti-nucléaire à cet endroit-là, elle date de 25 ans. Ils ont fait le bilan, il y a eu quand même 50 procès contre eux, c'est quand même pas mal. Au final, 2 mois de prison avec sursis, 2 ans de prison ferme, c'est la somme des condamnations, 26 interdictions de territoire pour des personnes, 7 personnes interdites de se rencontrer, d'avoir une nouvelle relation amicale, des milliers d'euros d'amende, une vingtaine de perquisitions, dans la Meuse, là où ça se passe, à Paris, en Isère, etc., une trentaine de gardes à vue. Voilà ce qu'ont subi les opposants à cette poubelle nucléaire depuis, on va dire, 25 ans. Ça fait quand même beaucoup. Alors, toujours dans les actions de justice, mais celle-là, on va aller voir un petit peu plus loin. On va retourner en Turquie avec toujours l'histoire de Jamal Khashoggi, là, ce journaliste qui a été assassiné. Alors, là, la résidence du consul saoudien à Istanbul a été visitée par les enquêteurs turcs. Le consulat a déjà été, lui aussi, étudié de fond en comble 2 fois. Ce qu'il en sort, c'est en fait les seules infos qu'on a aujourd'hui, c'est la presse turque, la presse proche de Erdogan qui balance les infos. On nous apprend que grâce à un enregistrement audio, on sait que le journaliste aurait été assassiné, torturé, la tête coupée, dépecé. Enfin bon, c'est glauque au possible.
Ouais, le New York Times a sorti des enregistrements.
Voilà,
aussi,
c'est le New York Times qui a confirmé une partie des choses données par la presse turque. Ils ont même identifié 15 suspects. Alors ça fait beaucoup, mais a priori c'est ce qu'ils disent. Il n'y a rien d'officiel encore. On sait que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, est à Ankara. Il a discuté avec Erdogan. On sait que Trump, qui avait fortement condamné l'assassinat du journaliste, a fait un peu machine arrière. Et on sait qu'il y a 450 milliards de dollars de contrats avec l'Arabie Saoudite en cours. Du coup, on y va doucement. On condamne le meurtre, mais surtout pas le pays. Du coup, on se dit, c'est bizarre, c'est dans un consulat, c'est donc forcément le pays, mais voilà, il a une espèce d'entre-deux ridicule, hypocrite, comme savent le faire les dirigeants de certains pays. Alors, ce profilait normalement à l'horizon le fameux Davos du désert.
Alors, en vrai, ça s'appelle, en anglais dans le texte et sans l'accent, le Future Investment Initiative.
Bon, bref.
C'est chouette comme
mot. Un truc pour capitalistes, là-bas. Alors, le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a dit que, je cite, les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui pour qu'il se rende à ce forum d'investisseurs. Ouais, là aussi, langue de bois. Donc, il n'y va pas. Mais, il a rappelé que. Ça coupait pas les liens avec l'Arabie Saoudite. Il faut dire que Macron, le président de la République française, l'avait dit clairement. Il avait dit, les faits sont graves, mais ça ne remet pas en cause les relations entre Paris et Riyad, laissant entendre que le business de la France, et notamment des ventes d'armes, va pouvoir continuer. L'Arabie Saoudite va pouvoir continuer à massacrer au Yémen avec l'aide du matériel français et le soutien de l'ami Macron ou de l'ami Bruno Le Maire. Voilà ce qu'ils ont laissé entendre. On est plus que dans l'hypocrisie, là. On est dans un truc très très glauque, où des enfants, des personnes souffrent, sont massacrées, sont torturées, grâce à Monsieur Macron et ses amis, et que personne ne dit rien. Voilà. Enfin, il y a des gens qui disent, mais eux, ils ignorent ça totalement.
Oui, alors il ne faut pas oublier non plus qu'en Arabie Saoudite, il y a un truc qui s'appelle le plan Vision 2030, je vous le dis en français. C'est un grand machin avec beaucoup d'argent qui est censé réaménager le territoire, créer du métro, de l'infrastructure routière, ferroviaire. Donc c'est beaucoup d'argent et évidemment il y a toutes les multinationales du monde, dont celles qui sont dites françaises, je mets les guillemets, c'est toujours compliqué avec les multinationales, qui veulent ces marchés. Et évidemment, M. Macron va soutenir ces entreprises multinationales dites françaises. Alors, on a appris que... alors, ce qui est marrant, c'est que notre ministre français de l'économie et des finances, M. Le Maire, a attendu quand même un peu, parce qu'on a su que des entreprises, des multinationales qui étaient censées se rendre à ce Future Investment Initiative renonçaient à y aller.
Mais d'autres y vont.
Mais d'autres y vont. Alors, il a attendu un peu quand même. Alors, on a appris comme ça que, par exemple, Uber n'allait pas y aller. C'est marrant. Mais on sait aussi que, par exemple, Mme Lagarde, hein, pour le FMI, n'y sera pas. On a appris que le président de la Banque mondiale, M. Yemirung Kim, ne va pas non plus se rendre sur ce Davos du désert, il n'y aura pas Riyad. Nous avons appris, alors il y a des trucs très drôles, je déboule un petit peu mes affaires. Alors, du côté français, on sait que finalement, BNP Paribas et la Société Générale n'iront pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y aller. Ça, c'est le 23 et le 20, du 23 au 25 octobre. Mmh. Ça ne veut pas dire que le 26 et le 27, ils n'iront pas. Ouais. Ça veut dire que pendant ce rendez-vous du Davos, ils ne vont pas y aller. C'est marrant. Hein,
enfin, pour ne pas être visible.
Ah bah, l'idée, c'est quand même. C'est, un peu, c'est ce que tu disais, c'est une hypocrisie. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir que. Je vous parlais d'Uber. Là, c'est un peu quand même. Oh là là, c'est très très mal. Il faut se souvenir qu'il y a de l'investissement d'Arabie Saoudite dans Uber. Que donc là, c'est un peu quand même des entreprises qui sont mal parce qu'elles ont eu des investissements financiers de l'Arabie Saoudite dans leur entreprise et que ben elles sont quand même un petit peu confrontées aujourd'hui à une situation assez macabre. C'est aussi le cas par exemple de quelqu'un qui est très médiatique, monsieur Richard Branson, vous savez, c'est le fondateur de Virgin, qui a décidé de pas y aller et en fait, lui, il est conseiller au tourisme pour l'Arabie Saoudite.
C'est classe.
Et donc ça, surtout, ça nous fait savoir toute cette affaire de renonciation.
Tous ces gens qui collaborent avec ce régime
sanguinaire.
Exactement,
c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça nous fait surtout apparaître qu'en fait, il y a des tas de gens qui ont les deux mains dedans, dans le sang, hein, quand même, il faut le dire. Je sais, c'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est la vérité. Et qui aujourd'hui voudraient nous faire croire que, oh là là, il y a un homme qui est mort, démembré, que c'est très horrible. Sauf qu'il y a plein de gens qui... Il y a déjà pas la liberté de la presse, la répression, les homosexuels...
Les travailleurs exploités.
Les travailleurs exploités. Et aujourd'hui, d'un seul coup, on aurait quelques doutes à vouloir aller en Arabie Saoudite pour 3 jours de blabla et d'échanges financiers. Voilà, on va voir si jamais... J'ai pas réussi à savoir si finalement EDF, Accor Hotel et Thales allaient finalement faire le déplacement. Nous verrons bien. On fera un petit bilan peut-être après coup.
Alors on va parler maintenant d'énergie et d'environnement. Et je vais vous lire la phrase de ce que j'appelle mon escroc du jour. Il s'appelle Arnaud Rousseau. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être connu, mais bon, bah, tant pis. Il est président du groupe Avril. Alors le groupe Avril, c'est les huiles le sieur, c'est du biodiesel, c'est plein de trucs pourris. Et surtout, il est président de la Fédération nationale des oléos. Protéagineux.
Je croyais qu'on disait pas biodiesel, mais agro-diesel.
Alors,
chez nous.
C'est son titre officiel.
D'accord.
Voilà. De lui, il fait du biodiesel, d'après lui.
D'accord.
Alors, c'est tout sauf bio, bien évidemment, puisque ça se saurait. Et donc, mais surtout, il est donc président de ce syndicat patronal. C'est bien un syndicat de patrons des oléoprotéagineux. C'est donc un patron, en fait, c'est tout. Il a dit, je cite, « Les agriculteurs ne sont pas les représentants commerciaux des groupes industriels. Il faut arrêter l'hystérie collective. Ils sont les praticiens de terrain qui cherchent des solutions à des problèmes du vivant. Ceux qui pensent que la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires est une solution durable sont dans l'erreur. L'idée qui consiste à faire croire que l'on pourrait s'en passer est irresponsable, à la fois économiquement pour nos producteurs, mais aussi en termes de santé publique et de compétitivité pour nos filières. » Et quand on entend ça, on a juste envie de vomir. On dit, ah bon, pour la santé publique, c'est bon de mettre... Alors eux, ils appellent ça des produits phytosanitaires, mais on rappelle, c'est des insecticides et des pesticides. Ah bon, parce que c'est bon à la santé, les pesticides ? Pourtant, bizarrement, il y a des centaines de milliers d'études qui ont démontré que les produits dits phytosanitaires sont mauvais à la santé. Oh le salaud, il aurait fait un gros mensonge ? Non, c'est pas le genre de ce genre de syndicat patronal. Pas du tout. C'est irresponsable économiquement pour ces producteurs. Ben là aussi, ça nous fait marrer. Quand on regarde les revenus des producteurs bio et des producteurs non bio, on se rend compte que ceux qui font du non bio, eh ben, ils galèrent beaucoup plus. Et oui, sauf que lui, il ne représente pas les petits agriculteurs, pas du tout. Il représente les industriels de l'agroalimentaire. Et eux, par contre, ben non, ils veulent produire et gagner de plus en plus d'argent. Donc effectivement, il est dans son rôle. Quelqu'un comme ça ne devrait pas avoir le droit de parler d'agriculture, puisque c'est lui qui détruit l'agriculture. Alors dire que les agriculteurs cherchent des solutions à des problèmes du vivant, ça nous fait bien marrer. Ces agriculteurs productivistes dont il se fait le porte-parole sont des agriculteurs du monde de la mort et pas du vivant. Il y a des études très simples, très, très courantes, qui ont été faites moult fois. Prenez un champ de l'agriculture productiviste, vous prenez 5 cm de terre et vous analysez ce qu'il y a dedans. Et en fait, il n'y a plus rien de vivant. Donc en fait, ils ont tué la terre, alors que normalement, la terre, c'est un milieu ultra vivant. Donc voilà, ces agriculteurs productivistes et leur ami Arnaud Rousseau sont les représentants du monde de la mort et pas de la vie. Et d'ailleurs, ils devraient être contents, hein, puisque... Alors, j'ai quand même... Si, il y a un truc où il est peut-être pas content, c'est que la France, elle était première en Europe sur un truc avant, en consommation de pesticides. Et là, on n'est plus premier, on est passé deuxième. Et donc c'est un peu la honte pour les agriculteurs productivistes, puisque l'Espagne nous est passée devant. Et oui, avec toutes ces immenses serres en Espagne, il faut balancer du pesticide. Donc la France est deuxième, mais quand même 72 000 tonnes de produits toxiques, cancérigènes, j'en passais des meilleurs, sont balancés dans les sols chaque année, et dans l'air et dans les rivières, par les amis de Arnaud Rousseau. Donc voilà, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Oui, tu voulais.
Non, je t'en prie. Ouais.
Alors maintenant, je vais parler de Emmanuelle Wargon. Alors, je la connaissais pas, je vais pas mentir, avant qu'elle ait été nommée secrétaire d'État à la transition écologique.
Parce que vous avez donc appris qu'on a un nouveau gouvernement.
Oui.
Hein, j'espère que vous avez suivi. On a perdu notre ministre des mezzanines quand même. Moi, je suis très déçu.
Moi aussi.
Bon, je sais pas si on a gagné au choix. Alors, on en a choisi une de ministre ce soir, mais je pense que dans les semaines à venir, on aura l'occasion de revenir sur d'autres.
Alors elle est particulièrement bien quand même.
Ah ben, c'est pas la seule. Hein.
Parce que pendant les trois dernières années, elle était directrice des affaires publiques et de la communication de Danone. Alors ça, c'est un terme officiel, ça veut dire qu'elle était lobbyiste pour la multinationale Danone, produits laitiers en tout genre et plastique en tout genre, hein, parce que c'est un énorme consommateur de produits plastiques.
Et je ne sais pas pétrole. Si on a dit son nom, Emmanuelle Wargon.
Si, je l'ai dit, si. Emmanuelle Wargon.
Secrétaire d'État. Hein,
oui. Voilà. Bon, elle est énarque, elle est...
Elle est Édouard Philippe.
Oui, oui.
Même promotion. Même promo, ouais.
Ah bah. Vous savez, celui qui est fan du nucléaire, là, qui a envie de coucher avec les déchets radioactifs. Eh ben voilà, c'est sa copine. Bon, bref, ça sent le copinage. En tout cas, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que quand Nicolas Hulot a démissionné, il avait dit, une des raisons, c'est parce que, d'après lui, l'échec des politiques environnementales s'expliquait en partie par la présence des lobbies, non pas aux portes du pouvoir, mais au cœur même des ministères. Ben là, ceux qui avaient des doutes sur les propos de Nicolas Hulot sont forcés de se rendre compte qu'effectivement, ils font rentrer une lobbyiste du monde industriel, de l'agroéconomie, de tout ce que vous appelez ça comme vous voulez, directement dans la transition écologique. Alors, bon, donc du coup, il n'y aura pas de transition écologique. Mais ça, on le savait déjà, c'est un gouvernement libéral, la transition écologique et le libéralisme, ça ne fait pas bon ménage. Et en plus, on connaît ses prises d'opposition, elle s'est déjà exprimée sur l'huile de palme. Alors pour elle, c'est un produit essentiel, l'huile de palme. Alors c'était pour les laits infantiles.
Elle a dit que c'est l'huile de palme est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles et donc on en a besoin et c'est on est tout à fait capable d'expliquer pourquoi elle parlait de l'utiliser dans certaines parties du monde où ça serait bien de pouvoir nourrir les enfants avec du petit lait produit par Danone.
Voilà, on rappelle les scandales sanitaires accompagnant l'utilisation de lait infantile notamment en Afrique avec du lait qui est forcément fait avec de l'eau mal potabilisée, on va dire, et du coup des enfants qui sont contaminés alors qu'ils ne l'étaient pas avec le lait de la maman. Donc toutes ces politiques de Danone, de Nestlé notamment, qui avaient été mis en cause à l'époque, de développer les laits infantiles dans les pays où la distribution d'eau n'est pas généralisée et pas sûre, c'est un crime hein, contre ces petits enfants qui vont en partie mourir et certains vont être malades. Et puis elle avait défendu les OGM aussi, hein, parce que c'est une pro-OGM. Elle avait dit, non, mais elle avait dit, rejeter les OGM, c'est rejeter l'innovation et la science. Et ben, on va lui expliquer que nous, on est pour l'innovation, on est pour la science, mais on est contre les OGM, et parce qu'il y a plein de raisons scientifiques de s'opposer aux OGM.
Oui, juste pour dire que c'est quand même Benoît Hamon et Yannick Jadot qui ont ressorti cette vidéo qui date de juillet 2018 dans laquelle elle parle de l'huile de palme. C'était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait remonter le truc pendant que M. Macron était en train de causer à la télévision. Vous savez, dans cette vidéo qui a été vue par personne et qu'en fait, qui est toute sombre, parce qu'il n'a pas voulu que ce soit les réalisateurs et l'équipe habituelle qui viennent. Donc, il a fait ça à l'arrache avec une équipe de TF1 qui n'avait pas l'air très motivée. Donc, la troisième vidéo qui a été choisie, c'est clair-obscur un peu pour Monsieur Macron. La vidéo est très très ratée et c'est pendant cette vidéo donc de 12 minutes a été balancée la petite affaire. Je trouve ça plutôt assez sympa.
Voilà. Et du coup, la politique de transition énergétique, eh ben, elle n'aura pas lieu. On en a bien conscience. Vous imaginez, elle, en tant qu'ancienne lobbyiste, et quand on est ancienne lobbyiste, comme c'est un métier particulier, on reste très proche hein, de la multinationale pour laquelle on va travailler. Est-ce qu'elle va dire d'un seul coup, il faudrait interdire les pots de yaourt en plastique? Bah bien non, bien sûr que non. Parce que, bon, bah voilà, elle est proche de Danone. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on a une grosse étude, et c'est de ça dont je vais parler maintenant, sur le pourquoi du comment de l'absence de la, du secteur agricole dans les politiques de transition écologique, on va dire. Donc, c'est directement en lien avec ce que va faire Emmanuel Wargon, même si je suis incapable de lire l'avenir, puisque je n'ai pas de boule de cristal, hein, puisque même si j'en avais une, c'est pas très efficace a priori, sinon les gens gagneraient au loto et seraient riches. Alors, cette étude qui a été faite par deux organisations, Changing Markets Foundation et Mighty Earth, donc qui sont des organisations anglo-saxonnes, et qui ont étudié l'ensemble des politiques de transition énergétique sur la planète Terre, et on fera le lien avec la France. Ils ont remarqué que contrairement au secteur énergétique, celui de l'agriculture ne bénéficie jamais quasiment de politiques publiques orientées vers une transition écologique. C'est exactement ce qui se passe en France. Il y a plein d'aides dans d'autres domaines pour mettre des panneaux solaires, pour faire du double vitrage dans les vitres, dans les maisons, des choses comme ça. Et par contre, sur la transition par exemple vers le bio, il n'y a quasiment rien. Donc ils ont ce rapport est assez juste aussi par rapport à la France. Donc ils expliquent, ils ont essayé d'étudier pourquoi. Alors d'après eux, une des raisons, c'est la peur des différents gouvernements, qui est une réaction négative du public qui pourrait accuser l'État de vouloir s'immiscer dans leur vie privée et dans leurs habitudes alimentaires, en disant, bah non, vaut mieux manger ça, vaut mieux faire ça, etc. On peut du coup voir que les politiques existantes continuent de soutenir largement les systèmes de production agricole qui sont en place, c'est-à-dire les systèmes de production polluants, les exploitations intensives, et le tout orienté vers la production de viande et de produits laitiers, sans jamais mettre en œuvre une politique alternative à tout ça, de réorienter la politique. Alors dans ce rapport, il y a plein de chiffres, hein. Il rappelle qu'il y a 30 milliards d'animaux d'élevage, c'est-à-dire grosso modo 4 fois plus que d'êtres humains, que l'essentiel des terres est occupé juste pour l'élevage. 70 à 80% des terres agricoles servent à l'élevage, alors directement ou indirectement, hein, souvent pour produire aussi le manger des animaux d'élevage. Et que grâce à ces différentes politiques de soutien aux produits laitiers et à la viande, grosso modo, on a une surconsommation entre 2 et 3 fois supérieure à ce qui est recommandé par les organisations qui s'occupent de la santé humaine. Et eux, donc cette étude explique que tous les gouvernements évacue quasiment la place de l'agriculture dans la transition écologique. D'ailleurs, on ne l'a pas vu dans les politiques françaises, et on imagine bien que notre nouvelle secrétaire d'État, Madame Wargon, va être exactement dans cette optique-là.
Oui, alors moi je retiens quand même que mardi, M. Macron nous a annoncé que la France allait être une puissance environnementale du 21e siècle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une puissance environnementale du 21e siècle, je n'ai pas compris.
Alors que quand on a signé les différents accords à la COP21 de Paris, la France ne les respecte toujours pas. Donc M. Macron ne les respecte toujours pas. Donc on imagine... Mais c'est très facile de se projeter comme ça en disant « Et moi en 2085, je serai champion du monde ».
Oui, mais au moins ça veut dire quelque chose, champion du monde. Là, puissance environnementale, ouais. Si tu veux, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je vais encore enfoncer le clou, si tu veux bien compte, Madame Emmanuelle Wargon, c'est que en 2001, elle était conseillère technique auprès du ministre de la Santé, Monsieur Kouchner, dans le gouvernement Jospin, on se souvient. Elle a été sous Fillon au cabinet du Haut Commissariat aux Solidarités Actives, le machin de Monsieur Hirsch. Elle a été adjointe au directeur général de l'Agence de Sécurité des Produits de Santé. Et la voilà donc à l'écologie.
Oui, oui. Bah, elle est multicompétente.
Ah bah je le souhaite, je le souhaite. Alors avant que tu passes à la 45,
oui.
Je propose de parler de Monsanto.
Bah c'est dans la lignée.
C'est dans la lignée. Hein. Alors vous avez peut-être entendu un papier qui fait du bruit cette semaine et qui pourtant n'est pas une quelque chose qui doit nous surprendre parce qu'il y avait déjà eu des papiers dessus. C'est plutôt le comment ça s'est mis en place qui est intéressant. On a donc appris que par le quotidien britannique The Independent que Greenpeace s'était intéressé à Monsanto et à des groupes de fermiers, hein, carrément de paysans, de travailleurs de la terre qui soutenaient
Monsanto.
Le glyphosate.
Le glyphosate, notamment.
De Monsanto.
C'est un peu louche, quand même.
Et ça paraissait louche comme ça, c'est vrai. Alors, pour tout vous dire, quand je vous dis que c'est pas une surprise, parce que quand il y a eu le salon de l'agriculture, il y a eu un truc, un stand présent, qui s'appelait Agriculture et Liberté. Et qu'il y avait déjà des journalistes à l'époque, j'ai même retrouvé leurs articles, hein, je suis allée les rechercher, qui trouvaient que c'était bizarre, qui s'étaient renseignés, avaient un petit peu enquêté et s'étaient rendu compte que derrière cette Agriculture et Liberté se cachait.
Monsanto.
Monsanto, plus précisément des lobbyistes payés par Monsanto. Puisque c'est là où cette enquête du quotidien The Independent est intéressante, avec évidemment l'enquête de Greenpeace, c'est qu'on s'est aperçu que dans plusieurs pays européens, Monsanto, je vous rappelle que c'est Bayer hein, maintenant, a payé des lobbyistes, je suis en train de rechercher le nom exact, Red Flag, pour faire passer l'idée que des agriculteurs des fermiers, c'est même mieux que ça, des fermiers soutenaient en fait le glyphosate et voulaient se battre contre les positions françaises et européennes de vouloir l'interdire.
Et c'est pas vrai en fait, ces agriculteurs, ces fermiers, ils n'existent pas.
Ils n'existent pas.
Alors, ah y a... oui, ils ont vraiment tout inventé.
Oui, et c'est là où l'enquête elle est intéressante. C'est-à-dire que quand les journalistes s'étaient rendus au salon de l'agriculture, ils s'étaient bien rendus compte que les jolies hôtesses, c'est pas insultant féministe, hein, mais c'était qu'on les avait habillées avec le petit tailleur et tout, donc ça faisait pas trop... fermier.
Ouais, c'est ouais, ça.
Bon, vous me direz que les exploitations agricoles, il y en a plein qui ont du costume hein, maintenant, ouais. Voilà, ou du tailleur, parce qu'il y a un certain nombre de femmes entrepreneuses dans l'agriculture, mais que évidemment ça marchait pas bien et que derrière, en fait, derrière ce stand, c'était évidemment une mascarade. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ça a été organisé à l'échelle européenne, dans plusieurs pays, et que chaque pays a son petit nom. Donc nous, on a le groupe Agriculture et Liberté. Donc je suis retournée hein, sur leur Twitter aujourd'hui. C'est pas mal, hein, puisqu'effectivement, ça se présente comme un groupe d'agriculteurs français unis pour protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance. Sauf que c'est pas vrai. Je suis allée aussi après sur leur page internet, puisque ce n'est qu'une page. Hein, je t'ai montré ça tout à l'heure.
Il n'y a qu'une page.
Il y a une page. Il y a des belles photos type Instagram. Hein, je fais un peu de la pub pour les réseaux sociaux, vous m'excusez. Mais c'est pour vous donner un peu. Il y a du soleil couchant, des beaux tournesols, des patates pleines de terre.
Ouais, mais on sent que ce n'est pas du vrai. Quoi.
Non. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas du tout de petites lignes en bas de ce truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mention légale. Alors, les mentions légales, si toi, mon ami, tu fais un blog, ne sont pas tout à fait obligatoires. Par contre, quand tu es un professionnel, que tu veux vendre quelque chose ou que tu es simplement un professionnel, tu dois mettre des mentions légales. Et là, il ne s'agit plus d'un forum, d'un blog d'agriculteurs. Il s'agit bien, en fait, pour moi, de gens qui essayent de nous vendre un truc. Donc, je me demande si la mention légale ne devrait pas apparaître. C'est une question, si vous avez la réponse juridique à ça, vous savez, hein, les lois sur le site internet, elles sont un peu précises. Ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'en fait, tout est mensonger. Cette page est mensongère. Ce n'est pas des agriculteurs. Elle est faite par des lobbyistes qui sont, d'ailleurs, je crois, basés à Dublin, en Irlande. Je ne sais pas si c'est étonnant, qui sont très fiers hein, de leur travail hein, sur leur site internet. Ils sont très très fiers là-dessus. Et alors Greenpeace est allé donc faire une enquête et s'est aperçu qu'ils s'étaient installés dans plus de 30 foires agricoles. en Europe. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait
en
le tour...
En faisant semblant de représenter les agriculteurs.
Exactement, et à chaque fois, il y a Free to Farm, ça, voilà, c'était pour les versions britanniques. Libertà di Coltivare, hein, en Italie. Et donc, nous, on a eu Agriculture et Liberté. C'est vrai que ça sonne très FNSEA, quelque part, ouais. Je trouve. Hein. Excusez-moi, mais c'est quand même. Et sur le site, hein, c'est écrit « Qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe d'agriculteurs français, blablabla. Nous sommes soutenus par une coalition d'utilisateurs et fabricants de produits agricoles. Rejoignez-nous pour protéger la agriculture et la production alimentaire en France. » Là où l'enquête de Greenpeace et de The Independent, elle est intéressante, parce que il y avait des journalistes qui s'étaient bien rendu compte que sur ce stand de visu, c'était pas des agriculteurs, c'était pas des fermiers, pas des paysans et des paysannes, mais que c'était bien du lobby, et que là, on s'aperçoit simplement avec cette enquête que c'est quelque chose que Monsanto a demandé à payer au niveau européen pour évidemment maintenir ce glyphosate. Voilà.
Bon,
j'avais juste envie de dire voilà, ça.
Ils ne seront pas condamnés non plus pour ça, mais ça c'est un autre.
Alors,
problème.
Il paraît que la ministre de la Justice n'a pas voulu. Elle a répondu à des questions là, sur la prison, tout ça, la justice. Mais du coup, il y a des journalistes qui lui ont posé la question. Elle a dit que pour l'instant, elle ne pouvait pas se prononcer, mais que s'il y avait des soupçons de lobbying frauduleux, j'aime bien le lobbying et frauduleux, eh ben, elle ouvrirait une enquête si nécessaire. Ça fait ça, beaucoup de conditionnels tout ça. Ouais.
Voilà. Alors oui, la bonne nouvelle du jour, c'est Madame Borne qui l'a dit. Lors d'une réunion avec les parlementaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle nous sommes.
Ministre des Transports, donc.
Ministre des Transports, tout à fait. Elle a dit que le projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne était abandonné. Donc, on peut crier victoire, parce que c'est quand même vraiment un truc qui était porté quand même par pas mal de gens sur la lutte, aussi bien des gens qui habitaient sur les endroits où allait passer cette future autoroute, hein, parce qu'il y a 375 fermes qui étaient concernées, pas mal d'emplois du coup aussi, 500 hectares de terres directes cultivables qui allaient être bousillées. Donc là aussi, on était dans un problème de destruction de l'agriculture locale. Alors le projet n'est pas officiellement encore enterré, elle a juste dit ça de manière un petit peu comme ça en discutant. Il n'y a pas de texte, on n'a pas l'officialisation, mais on espère que ça va se faire. C'est un projet qui était aberrant de toute façon, aussi bien économique que du point de vue écologique, et on va voir ce qui va se passer maintenant. Alors on sait que bien évidemment Laurent Wauquiez a failli mourir d'une crise cardiaque en apprenant ça. Il a trouvé la méthode indigne, notamment pour le citer, parce qu'il a pris ça dans la pièce. Le maire de Saint-Étienne, qui est aussi anti-écolo que Laurent Wauquiez, a dit qu'il n'était pas d'accord. De même pour le président du département de la Loire, Georges Ziegler. Tous ces immenses pollueurs et destructeurs de la nature ont eu quand même le choc de leur vie en apprenant ça. Donc ils attendent la réponse officielle quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des transports alternatifs, développer le train avec une ligne avec des voies qui marchent un peu mieux, un peu plus fiables, investir dans tout ça, et on ne parlera plus de cette autoroute A45 puisqu'il y a déjà une autoroute et que ça suffit largement. Il suffit d'essayer de la vider de ces milliers de voitures en trop chaque jour par des transports collectifs et alternatifs pour qu'on ait résolu définitivement le problème, et ça coûtera en plus moins cher. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle du jour.
Alors on va ouvrir une page profiteurs et lutte. Nous allons retourner du côté de Monoprix. Vous savez que j'aime bien vous parler de Monoprix parce que Monoprix veut absolument faire travailler les gens le dimanche et la nuit. Et nous, on est contre le travail le dimanche.
Et la nuit.
Et la nuit. Il y a du cumul, hein, du côté de Monoprix. Alors, on a appris ce week-end, c'est France Inter qui nous a raconté ça au départ, qu'il y a un nouvel accord qui a été trouvé à Monoprix. Grâce à deux syndicats, que je vais me faire une joie de vous citer, c'est la CFDT.
Oui, alors ça c'était facile, ils trahissent tout le temps.
Et les autres, ça va être facile aussi, c'est la CFE-CGC.
Ouais, pareil, c'est pas mieux.
Alors, ça va permettre à Monoprix de pouvoir réouvrir ses magasins en zone touristique internationale après 21h, c'est-à-dire jusqu'à 23h30. Donc il faut bien comprendre que ça fermera à 23h30. Le et la salariée, derrière, ils continuent à fermer le magasin, donc c'est-à-dire jusqu'à minuit en général.
Ouais.
Hein, c'est vrai entendre la chose.
Tu te rends pas compte comme c'est utile d'aller faire cette course à 23h30 ou à 23h, quoi.
Mais si, ben c'est en zone touristique internationale, c'est ça l'important en fait. Il paraît que ça.
Tu veux dire acheter ton PQ chez Monop parce que c'est en zone internationale, c'est important.
Ah ben, il paraît que ça va concerner un million et demi de clients, donc potentiellement c'est du pognon, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Je vous rappelle qu'il y a des opposants. C'est le CLIP-P, hein, c'est l'intersyndicale CFE CGT FO Sud, COCI et le SCID du commerce, je vais y arriver, voilà, qui donc cet intersyndical s'oppose hein, depuis le début, hein, ça fait quand même d'un moment maintenant plusieurs années que ça dure, et s'oppose à la CFDT en l'occurrence, très clairement, qui signe à chaque fois. Alors il faut se rappeler que la Cour d'appel de Paris le 7 septembre dernier avait donné raison au CLIP en demandant à l'enseigne de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21h et 6h sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée. La cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de bien fondé du travail de nuit, c'est-à-dire en quoi effectivement c'était important que Monoprix soit ouvert après 21h jusqu'à minuit, hein, 23h30. Et puis la cour d'appel avait aussi estimé qu'il n'y avait pas des contreparties assez importantes dans ces magasins Monoprix ouverts la nuit. Ah oui, je sais, la nuit pour certains et certaines d'entre vous, à 21h30, c'est bizarre parce que vous êtes encore en train de faire la teuf. Sauf que ben, salarié, il travaille de nuit à 21h. C'est comme ça et que c'est important de se rendre compte de ça.
Que lui, il a le droit aussi de faire la teuf.
Eh ben exactement, et puis de rentrer chez lui, de s'occuper de ses gosses, d'avoir une vie, d'aller se vautrer dans son canapé, de faire ce qu'il a envie, ce salarié ou cette salariée. Alors, du côté de la CFDT, on est content parce qu'il paraît que ça a permis ces nouveaux accords, puisque l'accord précédent a été cassé, de mettre des mesures nouvelles et améliorées pour les salariés. C'est-à-dire que, par exemple, les heures sont majorées à 60% au lieu de 50% entre 21h15 et 22h15, puis à 100% entre 22h15 et 5h. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont gagné des trucs, c'est ce que nous explique la CFDT, qu'il y a aussi maintenant que pour les gardes d'enfants, les frais annuels sont passés de 500 à 1000 euros. Waouh, chouette, vous pouvez pas voir vos gamins, mais on vous donne de la thune. Ouais. C'est pas sympa, ça.
Comme ça, ils seront élevés par d'autres.
C'est ça. Puis tu peux lui acheter un cadeau quand tu le vois jamais, tu vois, comme ouais. Ça, c'est cool. Que aussi, pareil, la CFDT est super contente parce qu'il y a un repos compensateur qui n'existait pas dans la première version. Ah là là, ils ont même réussi à augmenter les remboursements du transport pour que les gens ils puissent rentrer chez eux quand il n'y a plus de métro,
ah oui,
tu sais.
Que, voilà, des fois, à minuit, voilà. Même dans une zone touristique que t'es pas à Paris, tu rentres pas. Bah, voilà,
c'est pas facile.
Faut prendre le
donc,
taxi.
Ce qui est marrant, c'est que, donc, je vais la citer, cette déléguée syndicale CFDT, il faut que je pense que les gens assument les choses. Elle s'appelle Patricia Virfoller et elle explique donc à la presse que les salariés étaient très en colère, hein, puisqu'ils ne pouvaient plus travailler la nuit, tu comprends ? Car ces heures de travail en moins représentent une baisse de pouvoir d'achat, notamment pour les nombreux étudiants qui travaillent après leurs cours. Donc en fait, on a déjà des étudiants qui ne devraient pas travailler puisqu'ils sont étudiants. Rappelons que le principe d'aller faire des études, c'est pas d'être obligé de bosser la nuit à Monoprix pour pouvoir se payer un loyer et des études, hein, et pour pouvoir bouffer, hein. Et puis que les autres salariés, ils n'étaient pas contents. Bah ouais, évidemment, quand vous êtes payé au SMIC, vous avez envie d'avoir de l'argent, donc des primes, donc des petits surplus. Et donc, bah, c'est pour ça que vous êtes volontaire pour travailler la nuit, le dimanche, enfin, d'augmenter, en fait, votre salaire qui est à la base tout petit. Il faut le rappeler. Donc, voilà, bravo à vous, madame, j'ai encore perdu ton prénom, Patricia Virfollet de la CFDT, pour cet nouvel accord qui n'accompagne pas du tout, du tout, du tout les salariés en entreprise. Alors, du côté du CLIP P, on se dit qu'on va peut-être encore attaquer ce nouvel accord, hein, il y a évidemment en train d'étudier tout ça. Voilà, bon courage à vous. Voilà. Alors je vais continuer pour vous parler de la suite des grèves au parc Hayat Vendôme. J'en avais parlé avec Fabien il n'y a pas très longtemps dans les palaces. Pour vous dire que la grève, elle continue encore. Aujourd'hui, c'est le 24e jour de grève. Donc je vous rappelle que il y a aujourd'hui une sous-traitance dans ces palaces. C'est-à-dire que des gens qui travaillent là-bas tous les jours sont en fait payés par des entreprises extérieures. N'est-ce pas magnifique ? Et alors pour vous raconter quand même la galère, c'est que vendredi dernier, on leur a envoyé les CRS et qui se sont fait... Et elles se sont fait choper.
Ils étaient devant, ils distribuaient des tracts. Alors, c'est mal vu par la direction.
Non, en fait, on l'a expliqué la dernière fois, c'est qu'ils réveillent quand même les clients qui sont riches, c'est un palace, à 7h du matin, à coups de casserole. Hein. Bah c'est pas sympa. Donc, ça fait mauvais genre, on est devant un palace quand même. Hein. T'imagines, il y a des femmes de ménage.
Voilà. Il y a des gens qui nettoient les palaces.
Et ouais. Donc 3 semaines de grève pour de meilleures conditions de travail, pour dénoncer l'exploitation, pour qu'on soit... mis des contrats internes et plus la sous-traitance et on leur envoie donc les CRS et vendredi dernier tout ça s'est fait éjecter, expulsé au coin de la rue hein, quand même. Donc c'est sympa, hein, voilà. Alors il faut dire que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux grévistes de cesser tout agissement d'entrave à la liberté des salariés, parce que les grévistes empêchaient les traîtres à la cause de rentrer à l'intérieur du palace. Il faut dire que ben, c'est toujours un peu le problème de la lutte des classes aussi, c'est qu'il y a des cadres payés en interne par l'entreprise qu'on a un peu rien à taper des petites mains qui derrière elles sont sous-traitantes et à qui on demande en plus de fermer leur gueule, d'être discrète, de pas apparaître et de pas se faire voir par le client. Donc ça c'est une vraie lutte de classe qui est en train de se passer dans ce palace parc Hayat Vendôme. Moi je leur amène vraiment tout mon soutien parce que c'est pas la première grève dans ces palaces et que là c'est quand même le 24e jour de grève aujourd'hui et qu'il faut quand même avoir les reins solides et être unis et solidaires pour continuer à faire face et à la une direction qui a décidé que il y avait aucun moyen de pouvoir discuter parce que il y avait des troubles à l'ordre public et un préjudice à la négociation. Voilà. Je continue avec aussi mon autre dada, Ryanair. Hein, vous savez un petit peu que j'adore Ryanair. Pour vous dire que les ennuis ne sont pas terminés, puisque alors je vous avais dit que Ryanair, la direction, allait menacer de fermer des bases si les grévistes continuaient leur mouvement. Alors on a appris que pour cet hiver, il y a deux bases, une aux Pays-Bas et une en Allemagne, donc c'est à Eindhoven et à Brême, qui vont fermer à partir du 5 novembre. Et puis à Düsseldorf, il va y avoir une réduction de la flotte. Donc évidemment, là, les syndicats disent que bah, c'est bien pour réprimer les mouvements hein, qu'on est en train de fermer les bases Ryanair. Il y a 17 pilotes qui ont introduit une procédure en référé aux Pays-Bas contre Ryanair. Il y avait une décision aujourd'hui que je n'ai pas réussi à obtenir pour se battre contre Ryanair, contre ces fermetures de bases et faire prévaloir qu'effectivement si aujourd'hui Ryanair ferme les bases, c'est pour brimer le syndicalisme, les luttes et les mouvements sociaux en Europe et en particulier dans les mouvements qui sont en pointe contre les méthodes de Ryanair. Pour vous dire que moi j'ai lu cette info sur plein de sites et en particulier sur le site tourmag.com spécialisé dans le tourisme. C'est un article qui s'appelle Ryanair, la fermeture des bases est une déclaration de guerre pour les pilotes, un dialogue social impossible, c'est écrit par Pierre Georges. Et en fait, Ryanair, donc dans ce document, Tourmag explique, donne la parole aux pilotes en expliquant que c'est parce qu'ils ont fait grève que Ryanair punit, veut fermer des bases, tout ça. Et ben le Ryanair a communiqué suite à la parution de cet article. Il faut savoir que Tourmag, c'est à peu près lu par personne, par des gens comme moi. Non mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Et ben Ryanair s'est fendu d'un assez long communiqué pour expliquer que ce sont des affirmations mensongères des syndicats de pilotes, que c'est pas du tout une punition mais une réponse raisonnable à la détérioration de la situation du marché caractérisée par la hausse du prix du pétrole et des tarifs aériens en baisse. Voilà, en fait c'est la faute du capital et du capitalisme. Voilà, donc c'est très intéressant de voir la rapidité de Ryanair à répondre, en fait même à des journalistes qui vont aller donner la parole à des syndicalistes à l'intérieur et à des grévistes à l'intérieur de cette multinationale. Voilà, je pense qu'il faut vraiment arrêter de monter dans les avions Ryanair.
Ouais.
Ou en tout cas si vous montez, faites des grands coucous aux équipes. Enfin, je voyais, il faut amener votre soutien.
Ouais. Alors, on va parler d'irrationnel un petit peu. Et on va commencer par un peu le top du top de l'irrationnel, qui sont les religions. Et on va parler de l'Église catholique française. Puisque, après de longs mois d'attente, notamment les anciens scouts de Sainte-Foy-lès-Lyon, et surtout ceux qui sont montés en association qui s'appelle La Parole Libérée, ils attendaient un petit peu un signe du Vatican. Suite, on rappelle, aux différents scandales et notamment à eux qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de viols. Eh bien, le Vatican a répondu, mais je pense que ce n'est pas du tout ça qu'ils attendaient. Ils ont répondu qu'ils refusaient de laisser Luis Francisco Ladaria Ferrer comparaître au procès du cardinal Philippe Barbarin à Lyon. Alors, qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Philippe Barbarin, vous le connaissez, il est poursuivi pour avoir, comment dirais-je, caché un petit peu les problèmes des prêtres pédophiles. Et il avait été aidé par quelqu'un envoyé par le Vatican qui s'appelle Luis Ladaria, pour utiliser une version courte de son nom. C'est espagnol. Donc, qui avait conseillé Barbarin, il lui avait écrit une lettre en lui précisant qu'il fallait éviter le scandale public, d'où le fait que l'Église catholique lyonnaise ait caché tout ça. Et il avait dit tout en prenant quand même des mesures disciplinaires adéquates. Donc les mesures disciplinaires qui ont été prises par Barbarin, c'était de déplacer les prêtres pédophiles, les prêtres agresseurs, les prêtres violeurs. Ça, c'était une mesure super efficace, il n'y a pas à dire. Et alors, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas au procès alors qu'il est convoqué? Eh bien parce qu'il a le droit de ne pas venir, puisque le Vatican a rappelé que cette personne avait effectué cet échange dans l'exercice des fonctions souveraines du prélat espagnol. Or, le droit international garantit l'immunité aux agents publics des pays, et notamment ceux agissant au nom du pape, puisque le Vatican est aussi un pays. Donc le Vatican a invoqué cette immunité pénale de ses agents publics pour dire que ce Luis Ladaria ne viendra pas au procès de Philippe Barbarin. Pourtant, c'est quand même bien son complice dans le fait que ces prêtres ont échappé pendant un temps à la justice et ont continué d'agresser, de violer des petits garçons et peut-être même des petites filles. Je ne me rappelle plus s'ils étaient... Si touché à tout et n'importe comment. Donc voilà, c'est quand même affreux, horrible, que le Vatican fasse ça pour protéger quelqu'un qui a protégé finalement les prêtres pédophiles. Même si c'était sous des raisons fallacieuses et qui c'est pas forcément un soutien direct aux prêtres pédophiles. Donc voilà, c'est scandaleux et c'est pas la première fois que l'Église est confrontée à ce genre de pratiques, puisque l'Église a cette longue tradition, l'Église catholique, de protéger ses prêtres agresseurs de la justice. Alors ça marche pour la France, ça marche pour les États-Unis d'Amérique, ça marche pour l'Allemagne, ça marche pour l'Amérique du Sud, etc., etc. Donc voilà, petite info du jour, en espérant que Barbarin sera condamné quand même, même si on n'est pas toujours d'accord avec la justice que l'on voit tous les jours. Et on va parler maintenant d'autres irrationnels, les anti-vaccins, puisqu'il y a eu une belle propagande ces derniers jours, sur Internet notamment, des anti-vaccins qui ont fait courir des bruits, qui sont donc des mensonges bien évidemment, comme quoi faire vacciner une jeune fille contre le papillomavirus, ça avait comme conséquence d'augmenter les rapports sexuels de ces jeunes filles. En gros, d'après eux, ça poussait vers le vice qu'étaient les rapports sexuels, hein, puisque c'est de ça dont il est question. On sent bien que derrière cette propagande anti-vaccin, il y a une espèce de propagande religieuse aussi, de pureté, voilà, sur le que ce serait mal d'avoir des rapports sexuels, etc. Bon, il y a tout ça derrière, tout ça mélangé, et ça fait un bon mix. Donc ils ont fait une grosse propagande, hein, contre ce vaccin du papillomavirus et qui a plutôt pas mal marché, hein, parce que ça a été pas mal reporté sur plein de sites et plein d'infos sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors le problème, c'est que tout ce qu'ils disent est faux, parce que finalement, ça pourrait être vrai. Le fait de parler sexe, ça pourrait développer l'envie d'avoir ses premiers rapports sexuels, puisqu'on parle de jeunes filles qui ont 12, 13, 14 ans, l'âge possible des premiers rapports. Et en fait, eh ben, ils sont contredits par une énorme étude canadienne qui est parue dans le Canadian Medical Association Journal, qui a étudié justement le lien entre la vaccination au papillomavirus et les modifications ou pas des comportements sexuels des adolescentes. Eh ben, leur étude, donc, qui a porté sur l'année 2003, 2008 et 2013, enfin le parcours en fait de collégienne à partir de 2003, à partir de 2008, à partir de 2013, à savoir qu'à partir de 2008, les adolescentes ont été vaccinées contre le papillomavirus dans le cadre d'une politique de santé publique. Et toutes vaccinées, hein, c'est une politique, quasiment toutes, une vraie politique importante au Canada là-dessus. Et ben, l'étude montre qu'en fait, pendant ces années-là, c'est l'inverse qui s'est passé. Les rapports sexuels chez ces adolescentes ont baissé en fait en nombre. Donc ça démontre juste que les propos des anti-vaccins étaient juste des mensonges. Voilà.
Non, mais c'est surtout quand on sexualise des enfants, des adolescents, des adolescentes et comme des adultes. C'est-à-dire que on pense comme les adultes pratiquent la sexualité quand on a ce genre de réflexion, alors que c'est absolument pas le cas. Ça veut pas dire que quand on a 12 ans, on va pas se tripoter pour découvrir son corps. Mais c'est pas la même vision que des adultes qui peuvent déjà avoir une pratique sexuelle ou qui sont en devenir, et que c'est ça aussi le problème un petit peu de ce retour, c'est aussi ça le problème. Enfin, moi je trouve que ça, c'est quand même, il faudrait qu'on arrête de pratiquer cette pratique-là.
On rappelle que le papillomavirus, c'est un virus qui est très compliqué, le préservatif ne protège pas du papillomavirus, qui a pas mal de gens contaminés, mais c'est même beaucoup, il y a une étude américaine là, sur un groupe de personnes qui avait analysé, et ils avaient trouvé 69 personnes de ces Américains et Américaines étudiées qui étaient porteurs du virus HPV, hein, c'est le nom technique du papillomavirus. Et on sait qu'il faudrait donc vacciner toutes les petites adolescentes et tous les petits adolescents, puisque en fait le gros scandale, hein, c'est que beaucoup d'hommes sont non seulement porteurs mais sont atteints du virus et se développent les cancers du larynx, des choses comme ça liées aux pratiques sexuelles orales. Donc il y a un vrai problème de santé publique que tout le monde refuse de traiter, sauf certains pays comme l'Australie, comme le Canada, qui sont en passe de supprimer le cancer du col de l'utérus quasiment, et peut-être aussi de diminuer les cancers de la gorge qui sont liés au papillomavirus. Il nous reste une minute pour faire un petit agenda.
Ouais, moi je vais vous donner un seul et unique rendez-vous que j'ai repéré pour cette fin de semaine. Ça va se passer ce samedi 20 octobre à la Griffe à 15h, à partir de 15h. Je vous rappelle que c'est 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e à Lyon, et c'est le groupe Graines d'Almond de l'AIA sur l'idée comment vieillir en anarchie. C'est-à-dire que c'est une question qui nous traverse, moi qui me traverse des fois l'esprit. Comment je vais vieillir alors qu'on sait qu'il y a une situation difficile avec les EHPAD, que un certain nombre d'entre nous n'ont pas l'argent pour aller payer des établissements privés, que certains d'entre nous n'ont pas d'enfants pour nous accompagner, que certains d'entre nous ont des enfants mais on sait qu'ils ne nous accompagneront pas. Et donc ça, comment s'organiser collectivement dans l'autogestion, dans l'anarchie? Enfin, moi j'ai envie de poser toutes ces questions-là. Cette rencontre débat. Alors il y aura des invités, il y a par exemple l'autrice Suzanne Weber avec son livre avec Laurent, il y a des membres d'une coopérative d'habitants, des membres de Baba Yaga, enfin voilà, il y a des gens qui sont aussi pour raconter leur propre expérience et puis aussi de pouvoir amener nos questions, nos références et qu'est-ce qu'on a envie de faire de samedi, ouais, 20 octobre à 15h à la Griffe.
Et ben voilà, on vous laisse en compagnie de la petite cuillère.
Ciao ciao.